Bienvenue au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de mon cher compatriote Marc-André. Comment vas-tu?
Je vais très bien, Nelson. Bienvenue à l'émission Le lendemain de la veille.
C'est le lendemain de la veille, effectivement. On est très tôt, lundi matin. Comment allez-vous, tout le monde?
J'espère que vous êtes bien réveillés. On vous a fait jouer de l'album « Dans la gueule des jours » des Breastfeeders, la chanson « Betty Lou » et non « Petit Lou », mais c'est « Betty Lou ».«
Betty Lou ». Les Breastfeeders, un groupe qu'on a, toi et moi, connu dans les années début 2000, là, c'est à peu près dans ces années-là, qui est un groupe encore actif, un groupe de Montréal qu'on aime bien.
Oui, ben j'ai eu la chance d'y voir cet été au festival, mon deuxième show. Post-pandémie.
Ouais.
C'était au festival de Diapason à Laval.
Ouais.
Ils ont donné un excellent spectacle. J'étais très content de les voir.
C'est un show extérieur gratuit?
Show extérieur payant.
Payant?
Ouais, ouais.
Puis c'est un nouveau festival, ça, Diapason?
Non, ça existe depuis plusieurs années. C'est juste moi qui n'étais pas au courant ou que les groupes ne m'interpellaient pas. Mais en plus, en première partie, il y avait le groupe Drogue,
ouais,
qui a des anciens membres de, je crois, Le Nombre et de d'autres groupes. Ça torchait. C'était une belle soirée. Une belle soirée festive.
Soirée rock and roll, rock franco.
Oui, rock franco. Comme ça nous manque, là, des shows. Hein, c'est qu'est-ce qui nous a manqué le plus.
Effectivement, depuis le début de cette année pandémie. Mais les Breastfeeders, est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à choisir ce groupe-là aujourd'hui, Marc-André?
Ben, ça va ressembler un peu à ce qu'on va vouloir faire au courant de la saison des émissions, c'est de faire des survols de rock autant québécois que underground, de la pop, du rock, du bruit, name it, mais pas juste au Québec, là, un peu partout. Là. On va y aller avec nos coups de cœur tout au long. On a des goûts assez éclectiques. Si je regarde ma bibliothèque de disques, ça part à A. Je dirais pas c'est quoi le groupe. Je m'en sors pas, c'est AC/DC. Mais je pense pas qu'on mette du AC/DC.
Mais... C'est pas Alvin et les Chipmunks?
Ah oui, ça, mais je voulais pas le dire. J'osais pas. J'avais un disque de Noël 2 d'ailleurs. C'était hyper gossant pour les parents parce qu'ils parlent.
Oui, 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 je le connais très bien, cet album-là.
Tu l'as, oui, OK.
Effectivement. Non, je ne l'ai pas, je l'ai en streaming, mais effectivement, j'ai moi-même tenté de le jouer en montant le sapin de Noël, le Noël dernier.
C'était pas devenu
fou. Et ça a été un échec retentissant. Mes enfants n'ont vraiment pas aimé la musique d'Alvin and the Chipmunks à mon grand... à mon grand désarroi, parce que j'espérais qu'ils aiment ça, mais non. Moi, je mettais ça de façon un peu ironique, mais non, eux n'ont pas du tout apprécié la voix d'Alvin. Il faut dire qu'ils ne connaissaient pas Alvin vraiment non plus. Là.
Mais il y avait eu un revamp de ça, mais de ces comics-là, je pense, en 3D.
Mais il faut dire que, bon, c'est un album de Noël comme d'autres qui méritent aucune attention, plus que ce qu'on donne en ce moment. Mais sinon, pour l'émission le lendemain de la veille,
oui.
Ben on va écouter de la musique. Est-ce qu'on va faire autre chose aussi? Est-ce qu'on va parler de...
Je sais pas, mais non,
de musique,
je sais.
De film.
On va parler de tout ce qui nous passionne tous les deux. Fait que, il y a de la littérature, il y a des romans graphiques surtout, de la bande dessinée, autant francophone qu'anglophone, de la musique, des films, tu l'as dit, peut-être des fois, si on va voir des spectacles, on va parler de nos impressions, sans donner des critiques, mais juste dire que tel spectacle ou tel événement existe, un peu comme Diapason. On s'est réveillé, je me suis réveillé, ça y est, ça existe, mais c'était vraiment, c'est ça, on va essayer de vous faire découvrir des choses qu'on aimerait nous-mêmes découvrir ou que quelqu'un nous passe le flambeau puis nous dit, hey, en passant, tu tripes ces comics, ben il y a telle affaire, ou tu tripes ces graffitis, ben il y a tel événement qui se passe, justement, ça arrive sud à Longueuil, un festival de graph. Fait que ça va ressembler à ça.
Bref, une émission de découverte musicale, découverte cinématographique, de découverte littéraire. Moi, j'ai envie de parler des Breastfeeders parce que c'est un groupe qui existe depuis un certain temps, qui a eu beaucoup de succès grâce à ses performances live, qui est un groupe qui donne toujours un excellent show, très des bêtes de scène, notamment en bonne partie grâce aux joueurs de tambourine Martin Dubreuil, qui est un comédien aussi, qu'on a vu dans certains films au cinéma et peut-être même à la télévision, je ne suis pas certain. Mais pour avoir vu les Breastfeeders à quelques reprises dans mes années universitaires, notamment dans les parties de début ou de fin de session, c'est un groupe qui a toujours donné une super performance en live, puis que je pense qu'il a réussi à se faire un nom comme ça, de bouche à oreille, vraiment à travers les performances live, parce que c'était vraiment juste un excellent show rock.
Ben, ça continue. Ils ont pas arrêté. C'était comme s'ils n'avaient jamais arrêté. C'est comme si c'était hier. C'était mémorable. Moi, une des fois que je vais toujours me rappeler, c'est une Saint-Jean, quand ils avaient arrêté de faire des Saint-Jean un peu au parc Maisonneuve, puis qui s'appropriaient un peu les petits parcs ou les petites scènes, dont le parc Molson, pas loin du cinéma Beaubien.
C'était comme une Saint-Jean alternative, là, alternatif au gros show au parc Maisonneuve pour la télévision. Là.
Exact. Puis il avait donné un show, il était en dessous d'une, moi j'appelle ça pas un T-top, là, mais une espèce de mezzanine ou une espèce de...
Ah, un kiosque.
Kiosque.
Ah oui, au Parc Monson.
Oui, au Parc Monson, oui. Puis justement, on fait du name dropping, Martin Dubreuil était monté, je pense, en haut.
Sur le toit de la
structure. Sur le toit, c'était n'importe quoi, c'était l'anarchie. Là. Puis tu sais, c'est une scène comme qui est ronde, là.
Oui.
C'est sans être une scène 360 qui tourne, là, mais je veux dire, c'est une scène
circulaire.
Fait que c'était spécial.
Ouais, non, vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Un grand souvenir que je garde en mémoire, c'est vraiment la fois où ce fameux joueur de tambourine, Martin Dubreuil, a décidé en plein milieu du spectacle de baisser ses pantalons, de flasher sa bisoune. Puis c'était juste comme ça, totalement hors contexte. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça passerait moins bien. Mais...
mais moi, j'en avais entendu parler de cette on va appeler ça un accident ou de cet événement-là, mais moi, j'étais pas là live pour le voir, mais toi, t'es chanceux, tu l'as vu.
C'était pas un show très couru. Je pense que c'était un show de début de session, de party de début de session à l'UQAM.
OK.
Il y a plusieurs années de ça. Et ouais, c'est ça. Donc,
c'était à l'intérieur ou à l'extérieur?
C'était à l'intérieur. C'était au feu Medley. Hein?
C'est une salle de spectacle qui n'existe plus, qui était
sur Saint-Denis, au coin de
René-Lévesque.
René-Lévesque, exactement, qui était une grande salle.
Ben oui, il devait avoir du monde à la messe.
Oui, il y avait quand même du monde. Le Medley, qui n'était pas juste une salle de spectacle aussi, qui était un bar. Il y avait des soirées dansantes aussi. Bref, faut dire que le son dans cette salle-là, de mon souvenir, c'était pas toujours génial, la qualité sonore, mais bon, il y avait quand même des très, très bons groupes avec des excellentes performances. Mais non, les Breastfeeders font partie de mes bons souvenirs de show live que j'ai vu à plusieurs reprises, d'excellents groupes rock qui se donnent à 200% sur scène, vraiment à chaque fois. Puis c'est vraiment une valeur sûre là, à voir sur scène.
Ouais, j'espère qu'ils écoutent. On dirait qu'on leur rend un hommage post-rock.
Ben, il faut, hein. C'est pour ça qu'on est là. Puis aussi parce que c'est un groupe qu'on aime. Puis effectivement, c'est pas un groupe qu'on entend parler beaucoup aujourd'hui.
Non, puis on va en faire jouer. On va en faire jouer d'autres groupes aussi, les Dale Howard Chuck, Cirrhose et Cendrier, qu'on a vu en première partie des Skunk à un moment donné. On va ratisser large, je vous le promets. On a des goûts très éclectiques. Ça peut être très pop, ça peut être très punk, du rap, du jazz, du reggae, mais pas tout en même temps.
Et peut-être même du country un jour, ou du western?
Peut-être Lisa Leblanc.
Du folk?
Peut-être aussi. Là, tu mets là, dans l'embarras. Là, tu mets... Ouais. Tu mets dans le coin
ouais.
du...
Ouais, parce que je te connais, puis je sais exactement qu'est-ce que t'aimes comme musique. Et je sais que ces styles de musique-là que j'ai nommés font pas partie de ta discographie. Bref. Pendant que Marc-André place la prochaine pièce, parce qu'il faut expliquer les gens à la maison, il faut comprendre qu'on met la musique avec des disques compacts.
Old school.
Des CD.
Oui.
Parce que parce qu'on aime se compliquer la vie.
Ouais.
Parce qu'on enregistre en mode télétravail cette émission. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un studio professionnel. On est dans le shed chez Marc-André. Mais ça ne change rien parce que...
Un lieu tenu secret.
Oui, il faut vous dire que c'est... Ouais, c'est ça. On ne peut pas dire où est-ce qu'on est exactement, mais on est dans un endroit légal, sur un terrain légal. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Mais ça pour dire que oui, on écoute la musique sur CD. Hein, croyez-le ou non, ça existe encore, des CD. Parce que Marc-André, ben, il collectionne des CD, lui. Et des cassettes, et des vinyles, et des jouets Star Wars aussi, je crois, non?
Non, ça, non? C'est pas moi.
C'est
non,
pas toi,
non,
ça?
Non. Ah, okay. Non, moi, c'est plus des bidules avec des têtes de mort. Dia de los Muertos, la fête des morts au Mexique. Mais ça, on va avoir la chance de s'en reparler.
OK. Alors, Marc-André, on écoute une autre chanson.
J'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été.
phobie. Le métro sud devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit doigté qui s'exprime violemment. Il y a plus de mille, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du super fun. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, la chair s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, la chair s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été.
Et c'était les Négresses Vertes avec la chanson « Voilà l'été ».
Marc-André, t'as dit un mauvais mot. Pourquoi t'as fait ça?
Je ne croirais pas. C'est un album qui est sorti en 1990. Ça se prononce mal, c'est M-L-A-H, mieux connu sur Mila et non Mla. Sur The Label en France. C'est un groupe français de la mouvance alternative quand il y avait des groupes comme la Manon Negra, tout ce mouvement-là avec les Berruriers, les Ludwig von 88. Il y avait beaucoup de bands qui faisaient du punk avec des guitares distorsionnées, très punk rock attitude. Eux, sont allés totalement le contraire, sont allés dépouiller des guitares sèches, des guitares classiques, un petit côté folklorique, tzigane.
OK, ouais.
C'est de la musique du monde, mais alternative un peu. Les deux premiers albums, pour moi, c'est des classiques. Et cet album-là, c'est un classique. Il y a le gros hit qu'on va sûrement écouter à un moment donné. Sans honte, Zobie la mouche, que tu as déjà entendu probablement sur des pistes de danse.
Ah, possiblement. Le nom ne me dit rien, mais il faudrait que je l'écoute.
Je ne vais pas te le chanter, mais on va l'écouter.
Ouais, on n'est pas réputé pour être des bons chanteurs, toi et moi.
Non.
Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le nom du groupe ou c'est trop controversé?
C'est trop controversé.
Répéter le nom du groupe.
C'est quelque chose qui est
vert. Les N vertes.
Les N vertes.
Ouais.
Des vertes et des pommeurs. En parlant de vertes et des pommeurs, tu sais que je suis un gros tripeux de romans graphiques, de bandes dessinées.
Ben oui, toi.
Et là, on est à la radio, fait que c'est un petit peu dur d'illustrer ça. Fait que je vais essayer d'être bref, mais je veux vous faire découvrir quelque chose que j'aurais aimé ça découvrir à sa sortie.
OK.
Ça s'appelle Doggy Bag.
Doggy Bag, comme les petits sachets.
Comme un petit restant là, ouais. Quand tu sors du restaurant.
Okay.
Mais les créateurs, ils auraient dû appeler ça « body bag ».
Oh.
Pourquoi? Parce que c'est des bandes dessinées
« body bag »
qui ont comme recette la suspense, le frisson et l'horreur.
Ben voyons, toi.
Oui. C'est créé et dirigé par un Français qui s'appelle Run. C'est un roman graphique, là, je l'ai dans les mains, c'est français.
C'est un nom très français, ça.
Très français. Les Français sont forts sur les Run, Doggy Bag, Kill. fais-moi pas partir hors sujet, mais regarde, même juste sur chaque couverture, il est marqué « Disapproved by the Comic Code Authority ». Parce que, tu sais, aux États-Unis, je rentrerai pas dans cette historique-là, mais toutes les bandes dessinées étaient comme passées au peigne fin. Et eux, les Doggy Bags, ils veulent faire exactement le contraire. C'est sex, drugs and rock and roll en bande dessinée. C'est unpolitically correct. C'est...
Faut dire que la page couverture, la couverture du livre ressemble énormément au comic book américain.
Oui, effectivement.
La mise en page comme un magazine comique. Là,
et oh, exactement. Là, ça pourrait être du Marvel, du DC, Image, peu importe. Mais plus même les vieux Detective Comics, là, plus le côté horror un peu. Il okay. y avait ça. Qu'est-ce qui est super intéressant de ces bandes dessinées-là? Première des choses, il y a deux saisons.
Okay.
Fait que la première saison, il y a 12 bandes dessinées ou 12 épisodes.
D'accord.
Et dans chaque épisode, il y a 3 histoires.
OK. Fait
qu'on a 36 histoires juste dans la première saison.
Qui sont liées entre elles, les histoires? Ou...
Attends, je vais y revenir.
OK, excusez-moi, pardon.
Mais pas le beurre avant chaud.
Hey, je suis tellement curieux, là, je veux tout savoir.
Je sais que tu veux tout savoir. Et là, ce que j'ai entre les mains, c'est la saison 2. La saison 2, c'est l'album 17. Mais là, regarde, je vais t'expliquer. Là. Je sais que tu es curieux. La bande dessinée, comment elle est faite, c'est un assez classique comme format. C'est que, après l'introduction, tu as le courrier des lecteurs. Ouais. Ça, tu avais souvent ça dans les bandes dessinées de super-héros. Les gens posaient des questions. Dans tel numéro, tel super-héros fait telle affaire. Fait qu'eux, ils font la même chose, mais c'est un peu sarcastique.
Mais c'est pas des vrais lecteurs, donc c'est...
Je sais pas. Ah. Ben, ils marquent des vrais noms. Ils marquent... à Star, ils ont tous des nicknames. Il y en a un, c'est Mathieu, l'autre, c'est Tanguy, l'autre, c'est Mod, l'autre, c'est Doro. Fait que, tu sais, c'est peut-être des noms d'emprunt. C'est peut-être même les auteurs qui s'amusent à ridiculiser tout ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 histoires, comme je disais, par épisode. Ils sont pas reliés entre eux, mais ils ont la même thématique.
Ah, d'accord.
Fait que celui que je tiens entre les mains, c'est un petit peu weird comme... comment je pourrais dire ça, comme fil conducteur, parce que si je regarde des anciens épisodes, et là tu vas voir pourquoi j'ai trippé, le 3e épisode de la première saison, ça parlait de la Virgen de la Muerte.
De la quoi, pardon?
De la Virgen, je le dis en espagnol, excusez pour les auditeurs, c'est la Vierge de la Mort, c'est le culte de la mort au Mexique.
Ouais.
Fait qu'au lieu d'être une Sainte Vierge, c'est un squelette. Mmh. Qui est vénéré par des tueurs, des assassins, des trafiquants, tout ça. Fait qu'ils ont fait une thématique de 3 histoires par 3 auteurs différents et 3 dessinateurs différents. Fait que des fois, les dessins peuvent être très, on va dire, comiques américains. Des fois, peuvent être plus asiatiques, presque manga.
Okay.
Des fois, un peu plus européen, style la ligne claire un peu à la RG.
OK, OK.
Fait que c'est tout ça. Fait que c'est vraiment fascinant. Puis, avant chaque histoire, souvent, il y a des pages de fausses publicités.
Mmh.
Et des fois, il y a un petit 2-3 pages sur le... Admettons, il y en avait un sur le voodoo. Fait qu'il y a une bande dessinée complète, qui a 3 histoires qui est sur le voodoo. Et là, il explique... les dieux, Baron Samedi, où est-ce que le voodoo vient, c'est quoi la différence entre le voodoo en Haïti, le Santeria Cuba, le Candomblé au Brésil.
Fait que okay,
c'est quand même intéressant. Fait qu'il y a une côté vraiment, on va dire, documentaire, ethnologique, anthropologique, qui est véridique,
ouais.
Qu'on peut vérifier les faits. C'est sûr que c'est un résumé, grosso modo, mais c'est juste pour situer le lecteur. Et après ça, on part dans la fiction avec des bases réelles.
OK.
Fait que moi, je trippe. Je peux pas dire qu'elles sont toutes bonnes, mais il y en a des vraiment excellentes. Il y en a une sur la prison, une thématique sur les prisons. un made in America, mais au lieu d'être made in America, c'est mad in America.
Ouais.
On a sur les serial killers, on en a sur une femme serial killer qui est un peu une lady vengeance.
Oh là là.
Style manga asiatique japonais.
Mm-hmm.
Fait qu'on a un aussi sur les groupes criminalisés comme les motards, les mafias. Fait que t'as tout ça dans une seule bande dessinée. Ça se lit vite et ouais. bien. C'est du divertissement. Tu mets ton cerveau à off puis tu pars là-dessus.
Puis graphiquement, ben c'est toujours super intéressant de ce que je peux voir, de ce que tu me présentes à l'instant même. C'est très graphique, c'est très c'est assez gore.
Oui, c'est gore.
Très coloré, c'est pas en noir et blanc.
Non, c'est tout le temps... Je pense que je n'en ai pas vu en noir et blanc. C'est tout le temps en couleur. Comme là, il y a une histoire, puis il explique les généraux. Non, c'est très intéressant. Puis si vous n'aimez pas une des histoires, ben vous pouvez vous rattraper sur les deux autres.
Oui.
Fait que ça, c'est dirigé par Run, qui est un dessinateur, mais qui est comme le producteur de cette série-là. C'est sur un label, les Français, au lieu de... les Français, le week-end. Non, c'est la fin de semaine. Fait que c'est ça, c'est le label, c'est 619. Le logo est très cool, c'est comme une flamme avec une espèce d'écusson, comme une espèce de bouclier. Puis c'est rock and roll, c'est sanglant.
Ça s'appelle Doggy Bags.
Ouais.
Et ça se trouve dans les bonnes bibliothèques de quartier.
Et oui, et dans les librairies et sur le net, j'imagine. On peut se procurer ces petits documents-là.
Excellent. Merci Marc-André. On va continuer en musique parce que c'est ce qu'on aime ici, au lendemain de la veille. On aime écouter de la musique. Alors que, ben, faut que je le rappelle, Marc-André place le deuxième CD de l'émission parce que oui, on écoute encore de la musique sur CD et je vais arrêter de parler parce que je pense qu'il est prêt à appuyer sur play.
coração partido por um caminho frio e escuro, sim, é. Estou indo, foi mais uma obra do destino, é sempre assim. Chegou a minha hora, esqueça todos os caminhos que chegam até a mim, até a mim. Todas as portas estarão fechadas, o céu está vermelho. O tempo cumprirá o seu papel, é. Não me chame.
C'était Afro Reggae et c'était la pièce numéro 4, Partida, sur leur deuxième album. Je vais sortir mon portugnole de fortune. Ningún motivo explica a guerra. Il n'y a aucun motif qui explique la guerre. Rappelons que le groupe Afro Reggae est basé à Rio. Au Brésil. C'est un groupe carioca et ils sont dans des zones un petit peu conflictuelles dans les favelas. Fait que c'est un groupe de réinsertion sociale, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un ancien trafiquant, Junior, qui a décidé qu'il voyait beaucoup de ses frères d'armes mourir en jeune âge et tout ça, qui a dit « OK, c'est impossible qu'on continue comme ça ». Et lui, il a décidé de prendre comme arme les arts, okay. A-R-T-S, parce qu'il y a plusieurs arts. Et là, c'est ça, ils ont formé, il y a une partie qui est le groupe Afro Reggae, de la musique, du graffiti, il y a du capoeira, il y a du breakdance, il y a beaucoup de choses, mais c'est la réinsertion sociale, une alternative à la violence, aux gangs dans la musique et les jeux de cirque et name it.
Wow! Ouais. Donc lui, il prend les jeunes dans ces quartiers-là pour les amener vers les arts, soit les arts, soit la musique, soit autre chose que tu as nommé, puis... dont ce projet-là, donc ça aboutit à un groupe de musique à la fin.
Oui, puis ils ont trois albums, puis le premier album, il est très funk carioca, il est assez pesant, il est assez agressif. Celui-là, là, c'est le matin, on vous a mis quelque chose de plus smooth, mais on va vous en faire découvrir d'autres. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Le deuxième album, je l'aimais un peu moins, je le trouvais trop overproduced. Okay. Comparé au premier, c'est vraiment une différence entre les deux albums, mais à force de jouer, à force de l'entendre, c'est bon. Tu peux pas écouter tout le temps dans le tapis non plus.
Et donc, on pourrait classer ce groupe-là comme étant un groupe de musique afro-reggae, peut-être?
Exactement.
Pour faire...
c'est pas plus compliqué que ça. Faut que tu nommes les choses comme qui sont. Metallica, c'est du métal.
Exactement. Donc, c'est un de ces groupes-là qui se nomme comme son style musical.
Exactement.
Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours particulier.
Ouais.
Mais non, ça sonne... C'est vraiment bien. Effectivement, c'est une belle musique matinale, puis qui est tout en douceur, mais qui, en même temps, qui nous fait voyager.
Exactement, au Brésil, où est-ce qu'on aimerait être sur les plages de Ipanema et Leblon. Je sais que tu vas me dire, je lis dans tes pensées.
Ah
je
oui,
suis
tu
fort
lis dans mes pensées, ouais. Toi. Wow.
Tu vas me demander comment j'ai connu ça.
Ben oui, toi, regardons ça.
Hein? Je sais pas pire.
Hey!
Hey! On dirait François Pérus. Hey! Hey, Bessic Jones. Non, ben c'est ça. J'ai fait un stage avec le groupe Alternative qui sont situés sur du parc.
Un stage en.
C'était un stage à Santiago, Chili.
Dans le cadre de tes études en...
Non, hey, là, tu vas pas... En anthropologie.
Un stage en anthropologie. Ben
non,
oui,
non, non, c'est pas un stage en anthropologie.
Non?
Non, non, c'est un projet d'emmener les... Tu me vois-tu construire des pages web puis faire de la programmation HTML?
En 1996?
À peu près. Genre? Non, ben c'était plus 99-2000, ces eaux-là.
Excusez, pardon.
Et pendant que moi, j'étais au Chili...
Ouais.
Des groupes communautaires, des groupes alternatifs. Je me suis intéressé au graffiti là-bas, à la musique qui se faisait là-bas. Pendant que moi, je m'intéressais à ça, j'avais d'autres amis, d'autres compagnons qui, eux, ils étaient à Rio.
OK.
Et ils étaient avec le groupe Afro Reggae, dont Mathieu et Eve, que je salue s'ils m'écoutent. Sinon, je leur envoie des ondes positives.
Oui.
Et
Mathieu,
hein? Oui, on les salue. Mathieu a fait l'intérieur de la pochette du premier album. Il dessine super bien, il vit de son art, du dessin, tout ça. Fait que chapeau. Et Eve, pendant son stage, ils ont tellement aimé sa présence qu'elle a travaillé pour eux.
Ah, OK.
Puis là, ben, elle est revenue au Québec, là, mais sinon, elle a été très longtemps avec Junior et avec l'organisation d'Afro Reggae. Afro Reggae voyageait, se promène, c'est des ambassadeurs de la culture brésilienne et juvénile, tout ça. Fait qu'ils sont partout.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, ouais. C'est clairement un beau projet, puis c'est un beau, c'est une belle, comment je dirais ça, sans vouloir être mercantile, c'est une belle carte postale aussi pour. Le Brésil, de présenter un groupe de jeunes qui se sont sortis d'un quartier défavorisé puis qui ont réussi à produire quelque chose de positif. Là. C'est quand même intéressant aussi.
Exactement. Puis, c'est ça. Je voulais vous faire jouer une autre chanson. Je pensais que c'était celle-là, mais on va y retourner. Ils ont des invités spéciaux, des fois. Ils ont de la crédibilité.
OK.
Fait que avec un deuxième album, ça a attiré des gens de ce qu'on appelle la musique du monde, là, l'étiquette musique du monde.
World
music,
beat.
World beat, yeah. Tout ça.
C'est bon, le world beat. On aime ça. Mais non, effectivement, c'est une étiquette qui ratisse large, mais on s'entend que pour les Brésiliens, cette musique-là, c'est pas du world beat, c'est de la musique de chez eux. Donc,
exactement.
C'est une étiquette... C'est une classification très nord-américaine.
Ouais. On faut tout, on met tout là-dedans,
ouais,
souvent.
C'est un peu n'importe quoi.
Exact.
Mais pour nous, mais aussi pour classer ça dans les tablettes, feu tablettes chez HMV, on appelait ça du world beat.
OK. T'as-tu travaillé chez HMV?
Non, jamais.
OK.
Non, mais quand on y allait, quand on magasinait nos disques compacts, il fut un autre temps, il y avait des sections. Hein, tu te souviens?
Ben
il y avait des sections de musique.
Jazz, blues.
Dont la section musique. World Beat, ouais. Latin Jazz, blablabla.
C'est-tu World Beat ou Musique du Monde? Comment ça s'appelait?
Ouais, ça devait être Musique du Monde. Ouais, je m'en souviens plus. Hey, ça fait longtemps. Hein?
Ouais. Mais tu sais, man, je pensais pas qu'on s'en allait là-dedans aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle une des dernières journées qu'à HMV, le gros magasin fermait, le Megastore sur Sainte-Catherine.
Ouais.
Puis il y avait une tempête de neige. Ou en tout cas, une fois, je suis allé, puis il y avait de la neige. Je sais pas
t'as
pourquoi.
T'as marché 10 000 dans la neige
non,
pour
non,
aller
non,
chercher
mais c'est
le
pas ça. Non, mais j'ai des photos.
Album,
non, mais j'ai
Guns
des photos.
Roses.
J'ai des photos. J'ai des photos parce qu'il y avait des posters dans les vitrines. Puis j'ai dit, je reverrai plus jamais ça. Il y avait de la neige, des vitrines d'HMV, puis des artistes là, internationaux hyper connus.
Ouais.
J'ai pris une photo, puis c'est ça. Des magasins de disques comme ça, ça existe. Des centres de Recordman, des HMV, ça, des, Ça n'existe plus.
Il en reste quelques-uns, heureusement, mais effectivement.
Oui, c'est des plus petits locales. Puis c'est peut-être mieux aussi.
Ouais.
Mais je veux dire, comme c'était quand même une saga pour nous autres. Ben, une saga, une épopée de quand j'étais plus jeune, ado, le lendemain de Noël, le Boxing Day, on se réveillait, on s'habillait, on partait de la rive sud en STRSM. Ou whatever, comment ça s'appelait. Puis on arrivait, puis on faisait les centres de Record Man, puis il y avait des line-up. Il faisait moins 20 dehors. Puis on faisait le line-up pour économiser un compact disque qui valait 25$. T'avais comme 15% de rabais dessus.
Ouais,
t'étais fou comme de la merde, excusez l'expression, mais tu capotais, tu disais, hey, je vois, c'est le deal du siècle. Puis là, tu t'en sortais avec 10 CD, là, puis c'était comme, wow.
Hey, c'était tout un temps, ça, hein?
Oui. Je les ai tout de suite à Star, les CD que j'ai payé 25.
Puis grâce à ton sacrifice de file d'attente à moins 20, un Boxing Day, ben on a une belle collection de disques ici à notre disposition pour le bénéfice de nos fidèles auditeurs, même si c'est notre première édition. Oui, Marc-André, tu places une prochaine chanson. Déjà, t'es vite sur le piton, hein?
J'essaye.
C'est bon?
Parce que là, il faut expliquer, là, c'est fait maison. Là. C'est
homemade.
Homemade, là. C'est do-it-yourself, c'est old school, comme on a dit au début, cassette, CD, vinyle, MP3. Le Wi-Fi se rend à moitié ici. Fait que c'est, on est comme dans un bunker. Fait que, oh, on a même de la visite qui rentre. C'est comme un free-for-all.
On a une téléspectatrice. Une spectatrice, pas une téléspectatrice. Une spectatrice, oui. Alors, pour la prochaine chanson, Marc-André, veux-tu la présenter ou on y va tout en musique sans la présenter?
Sans la présenter, je fais juste... je te fais confiance, je te prête mon CD.
Ah, tu me donnes la pochette comme ça en main propre?
Oui, à main propre.
Je la tiens dans ma main gauche.
Puis je vais baiser sur le piton.
OK.
Technical problems.
On est de retour parce que la musique a arrêté.
Mais là, elle devrait recommencer. Eh oui, c'est parti mon kiki.
Thank you.
Et c'était La Mano Negra avec Señor Matanza, paru sur l'album Casa Babylon. Mano Negra qu'on connaît pour Manu Chao.
Oui.
Oui.
Très, beaucoup.
Énormément.
Qui
à
ne
la
connaît pas Manu Chao? Levez la main à la maison. Non, mais effectivement, Manu Chao, Mano Negra, ben Manu Chao qui a eu un succès interplanétaire dans les années 90-2000, j'ai pas d'année en tête, là, juste ça comme ça, mais...
Ouais. Au pif.
Au pif, puis ouais. Avec l'album Clandestino, si je me trompe
ouais,
pas.
C'était exactement.
Donc, vraiment, qui jouait partout à la radio, qui jouait partout dans les restaurants, dans les bars, dans les soirées, c'était vraiment partout. Mais il faut dire que Manu Chao était, avant, il était dans un groupe de musique qui s'appelait...
La Mano Negra.
Et Mano Negra qui vient de France?
C'est des Français, mais il y a des gens de toutes les origines. Manu Chao, il est de parents espagnols et tout ça. Enfin, que...
ouais.
La Manu Chao qu'on a vue, moi j'ai vu au moins deux fois en show. Puis c'est jamais vu la Mano Negra, mais Manu Chao, c'est impressionnant. C'est une machine redoutable pour faire la guerre en spectacle. Je veux dire, son fait au corps de tour, tout est tight. Les musiciens, ils remixent toutes ses chansons. Ils mettent justement des tunes de la Mano Negra. Les six meilleures chansons sont tout le temps incluses dans le set list, dans le répertoire du groupe. Fait que tu peux pas t'ennuyer dans un show.
C'est vraiment des shows extrêmement dynamiques, extrêmement énergisants. Si vous n'avez pas eu la chance, si vous avez manqué Manu Chao en version en live, ben allez voir sur YouTube. Ou sinon, il y a peut-être des DVD qui existent là, de spectacles live, possiblement à la bibliothèque municipale. Mais non, sérieusement, les shows live de Manu Chao sont toujours extrêmement divertissants, extrêmement dynamiques. On sort de là avec 5 livres en moins, tellement on sue, c'est incroyable, on danse, on sue notre vie là-dedans. Mais non, moi j'ai vu une fois Manu Chao au Parc Jean Drapeau il y a plusieurs années de ça. Toi, étais-tu là cette fois-là ou
non,
c'était ailleurs?
Non, moi, je les ai vus au Festival d'été de Québec la première fois, puis la deuxième fois, et la première fois, c'est au Métropolis.
OK.
Le wow. NTELUS maintenant, là, mais le
Métropolis,
Métropolis,
ça devait être un méchant show.
Oh, ouais. C'est fou. Puis les deux fois, je suis rendu vieux, là, je sais que tu vas le dire. Avant que tu le dises, je l'anticipe. Mais j'étais sur le parterre sur ces deux spectacles-là. Ben, au Festival d'été de Québec, c'est juste parterre, c'est du gazon. Mais comme tu dis, tu maigris deux livres. Là, c'est un marathon. Tu sautes, tu essaies de sauter. Des fois, tu es tellement collé. Je pense que c'est ce qui ressemble le plus à des concerts que j'ai vécu en Amérique latine ou au Mexique. C'est des bains de foule. C'est vraiment, là, c'est tight. Si t'as envie de faire pipi, si t'as envie de reculer de trois pas parce que t'as des bouchées de chaleur, oublie ça, t'es là jusqu'à temps que le show il finit. Là.
Ouais.
C'était pas mal ça, les deux shows au Québec de Manu Chao.
Manu Chao.
Ouais.
C'est le genre de foule qu'on voit compact. Plus... des foules compactes et chaudes et des gens qui s'époumonnent durant le spectacle. C'est plus très COVID-friendly.
Des crachats, là, comme dans le temps, des shows punk, tu reçois des spits, là, je pense que c'est fini. Là.
C'est révolu. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on va revenir à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on est tous un peu traumatisés par la pandémie qui fait en sorte qu'on n'aime plus tant les bains de foule que ça.
Non, on les évite, on les évite. Mais moi, je voulais juste revenir, le temps vole et le Señor Matanza, c'est le seigneur, le monsieur qui tue, et à qui on fait référence dans cette chanson-là de notre célèbre Mano Negra Manu Chao.
Ouais.
On parle du trafiquant colombien Pablo Escobar.
Pas lui encore?
Pablo, ben oui. Qu'on a redécouvert avec les séries de Netflix Narco.
Ben ouais.
Mais Pablo, il est mort, ça fait 28 ans aujourd'hui, à peu près.
Ouais.
Pas, peut-être en année, je parle, peut-être pas
il
la
est,
journée.
Il est tombé d'un toit, hein, je pense.
Ouais, ben c'est,
il faisait
c'est...
sa toiture. Puis,
il faisait sa toiture.
Il est tombé,
puis, dans ce temps-là, il ne mettait pas d'arnais, il ne s'attachait pas.
Il est glissé.
Il est glissé. Puis c'est des tuiles, tu sais. C'est des tuiles comme espagnoles.
Ouais,
en Amérique.
Ouais. Un accident bête.
Puis il a slidé.
Ouais.
Oui, mais j'espère que sa descendance ne nous écoute pas parce qu'on on se moque vraiment pas de Pablo.
Sûrement pas.
Non, mais sans niaiser, dans un courrier international, c'est un journal que je lis parfois.
Oh.
Et il y a tout le temps des articles sur Amérique. Fait que ça peut être en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et il y en a un sur la Colombie. Et sur la Colombie, il y en avait un article qui disait « Les encombrants hippos de Pablo Escobar ».
Parce que hippo,
comme hippopotame,
okay.
L'animal d'Afrique.
Ah, okay,
et là, pourquoi qu'il y en a en Colombie?
Mm-hmm.
Parce que Pablo tripait ses zoos et les animaux exotiques.
Ouais, c'est vrai.
Il en a fait venir à son... Il y avait comme une hacienda, là, une espèce de ranch.
Ranch, ouais.
Où est-ce qu'il se promenait en moto puis qu'il y avait des hectares et des hectares. Et il emmenait des animaux exotiques de partout et il y avait des hippopotames.
OK.
Qui a fait venir.
Wow.
Et là, les hippopotames, ben là, Pablo est mort et il n'y a personne qui s'est vraiment occupé de son zoo privé. Tu sais, c'était comme une petite activité touristique d'aller voir son zoo. Mais les animaux ont proliféré parce qu'il avait emmené, si je ne me trompe pas, je vais regarder vite sur l'article, ils ont emmené un mâle puis deux femelles.
OK, OK.
Puis ça, on parle là, dans les années 80. Puis là...
Se sont reproduits.
Et là, l'hacienda que je vous parlais, là, c'est comme un parc à thème. Là. Ça s'appelle l'Hacienda Napoles.
Ouais, OK.
Et là...
Qu'on voit dans la série.
Oui, on voit dans la série. On voit la vraie parce que c'est des images d'archives là, dans le générique du début. Mais là, les animaux des années 2006 qui étaient censés être en captivité, je dis bien censés, ben, il y a une rumeur qui circulait qu'il y a des habitants aux environs du fleuve Magdalena, qui est dans le coin de l'Hacienda, ont vu des hippopotames.
OK.
Des hippopotames, ça bouffe du gazon comme un hectare de foot, tu sais, comme un terrain de football.
Ouais, OK.
Et en plus, quand ils sont comme en colère, ils disent dans l'article, dans un accès de fureur, ils peuvent se jeter sur quelqu'un et le tuer.
Et palais! Des gentils voisins, toi?
Des gentils voisins. Fait que les chiens qui jappent ou des chats qui viennent faire leurs besoins dans ta cour, c'est pas mal moins grave qu'un hippopotame, je pense.
Ben, c'est vraiment drôle. C'est que dans le fond, lui, OK, ben, c'est ça, quand il est parti, les animaux sont restés là. Puis il n'y avait personne qui s'en occupait.
Ben, plus ou moins, je pense que la ville, ouais, la ville s'en est occupée un bout de temps, mais peut-être manque de fonds, en tout cas. Fait que okay. Il y en a qui se sont évadés. Puis là, le problème, c'est qu'ils peuvent. Je sais pas, je veux pas porter de jugement de valeur, mais ils veulent pas, on dirait, les capturer ou baisser la natalité, parce okay. que c'est des animaux sauvages. Mais en même temps, là, il y a d'autres experts qui disent, mais si on reprend les hippopotames et on les ramène de où est-ce qu'ils viennent, ça peut contaminer comme la faune locale en Afrique. Parce qu'ils ont peut-être, puis là, avec le COVID et les mutations, on oublie ça, là, les mutations biologiques.
Fait qu'ils sont mieux de rester en Colombie parce qu'ils sont des Colombiens maintenant.
Exactement, c'est des hippocolombiens.
Hippocolombiens. Qui dansent la cumbia.
Qui écoutent du Carlos Vives. Shakira vient de Colombie aussi, si je ne me trompe pas.
Oui,
ils doivent se déhancher les hanches. Ça doit être sexy, un hippopotame qui danse.
Belle image, Marc-André.
Belle image.
Environ 4-5 minutes.
Bon, ben, on va y aller en musique. On va continuer en musique. On a notre DJ d'un soir qui est là, d'un matin, qui va nous partir.
Veux-tu présenter la chanson avant? Ou est-ce qu'on termine l'émission en musique cette semaine?
Oui, on va probablement la terminer.
Alors, je vais présenter le groupe Grim Skunk, fameux groupe punk québécois.
Exactement, c'est sur l'album. C'est bientôt le temps des pommes. Faut pas faire de pop. C'est Seven Wave et c'est, je vous dis, la track numéro 13. Ça vous dira absolument rien, mais si vous connaissez la Manon Negra, vous allez reconnaître le lien.
Si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. We tremble on the earth and we fall into the sea. Machine gun killing you and machine gun killing me. We tremble on the earth and we fall into the sea. Machine gun killing you and machine gun killing me.
Manon Negra et Grimmskunk ensemble.
Marc-André, c'est déjà la fin de l'émission. C'était le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3
FM.
Merci d'avoir été à l'écoute. Restez à l'antenne. D'autres bonnes émissions sur les ondes de CKUT. À la semaine prochaine.
Merci.
Bye-bye.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
October 16th at the Ritz, Orchestra Criminal returns to the stage, armed with their repertoire of ancient criminal tunes from Moldova, Morocco, Greece, Ukraine, Poland, Argentina, Afghanistan, Russia, and Mexico. Orchestra Criminal is a 10-piece of improv performers interpreting inspired renditions of adventurous gangster songs from a dangerous and forgotten era. Saturday, October 16th at the Ritz, Orchestra Criminal, with special guests, Meduse. Tickets $15 in advance at blueskiesturnblack.com, $20 at the door. Doors at 6:30, a co-presentation of CKUT.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test-covid-19. A message from the Gouvernement du Québec.
Esa, el artista de mayor impacto en la música urbana, Maluma, en concierto con su papi Juancho Tour. Maluma, papi Juancho Tour, viernes 22 de octubre en el Bell Center. Papi Juancho Tour, Maluma cantando todos sus grandes éxitos. Boletos disponibles en Ticketmaster, producido por CMN, líder en entretenimiento.
Throughout the pandemic, our kids have shown how strong, patient,